goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Adorer des uns et détester des autres, la coriandre a le mérite de ne laisser personne indifférent.
C'est une herbe que j'adore, que j'aime assumer dans ma cuisine, parce que moi je la trouve fabuleuse, quoi. Particulièrement parfumée, c'est floral, c'est aromatique, c'est... Je trouve qu'il n'y a pas une autre herbe aussi puissante que la coriandre.
Coriandum veut dire, justement, la traduction littérale, punaise, mal. Goût et odeur ne sont pas appréciés par environ 20% de la population dans le monde.
Trop la chauffer, trop la cuire, ça dénature un petit peu ce que j'aime d'elle.
Pesto de coriandre avec de la coriandre fraîche.
Ah, c'est de la coriandre.
Tu sens la coriandre?
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. C'est une plante transformiste qui peut être à la fois épice et herbe aromatique. La coriandre, coriander en anglais, cilantro en espagnol, coriandolo en italien. Cette plante est présente dans toutes les langues et dans de très nombreuses cuisines, de l'Asie à l'Amérique du Sud, en passant par le bassin méditerranéen. Même si ce condiment divise les gourmets et a même des ennemis virulents, c'est ce que l'on va voir et on va tenter de comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on cultive et on cuisine la coriandre avec nos deux invités. Samir Origagli, bonjour.
Bonjour François Régis.
Vous bonjour avez fondé... Encore la première marque d'épices 100% française.
Tout à fait.
Vous êtes spécialiste des épices, vous êtes déjà venu nous parler. Alors, il y avait l'anis.
L'anis, gingembre et un peu le thym aussi.
Et le thym, absolument. Et vous avez une relation très intime avec la coriandre. Vous allez d'ailleurs nous faire goûter une coriandre 100% française. Et vous nous avez préparé quelque chose, plein de petites recettes avec la graine, mais également la feuille fraîche.
Oui, et je peux vous assurer une chose, effectivement, tout le monde n'aime pas la coriandre, mais à la fin de l'émission, tout le monde aimera la coriandre.
Ah, alors là, ça c'est un défi qui va être compliqué à relever, je peux vous le dire, et on va comprendre pourquoi. Nathan Hello, bonjour.
Bonjour François Régis, bonjour tout le monde.
Vous êtes chef, ah tiens, on sent une petite pointe d'accent du sud, ouais, vous êtes originaire du Lavandou, c'est ça?
Exactement, au bord de mer.
Mais vous travaillez à Paris, vous êtes au fourneau de l'Épi du Pain, un bistrot gastronomique situé rive gauche à Paris. Vous nous en rappelez l'adresse précise?
Alors c'est tout bête, c'est comme son nom, le 11 rue du Pain, dans le 6e arrondissement, on est juste en face du Bon Marché.
J'ai déjà eu l'occasion de venir dans ce bistrot hautement recommandable. Et vous aimez la coriandre? Vous en faites même usage en cuisine? Vous êtes aussi familier des épices encore, on va en parler. Et vous allez nous montrer comment on dompte à la fois la graine et la feuille fraîche. Qu'est-ce qu'il y a au menu?
On a amené un peu d'iode, un peu ce côté marin pour la marier avec justement la coriandre et puis un petit peu de fruits aussi.
Et on va voir qu'a priori ce mariage, ça se passe plutôt pas mal.
On espère.
Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, notre libraire gourmande Déborah Dupont et notre chroniqueur vin Dominique Hutin. Bonjour les copains.
Bonjour.
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 Déborah.
Alors moi j'avoue, je préfère la feuille à la graine, mais pour autant, j'ai choisi une recette où il y a les deux.
Attendez, vous aimez la feuille, c'est déjà pas si mal. Est-ce qu'il aime la feuille, notre ami Dominique?
Ah oui, bien sûr, j'aime la feuille.
C'est bien.
Non, j'aime beaucoup la coriandre, je suis assez fan.
Très bien.
Et moi je vais vous démontrer scientifiquement que le mélange jaune plus bleu, c'est égal au vert, vert coriandre évidemment. Bref, jaune et bleu, je vous emmène en Ukraine.
Ah, carrément. Pour interagir avec nous en direct, un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter pour retrouver tous les contenus de notre émission, nos recettes, nos podcasts, nos bonnes adresses, nos bons plans. Rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de déguster la coriandre en graines, en feuilles fraîches, un petit détour, si vous le voulez bien les amis, par Rome, Roma, où j'étais il y a quelques jours. Vous connaissez ma passion pour l'Italie. Cap sur une de mes adresses de cœur, où je passe à chaque fois des moments délicieux. Alors, faut avoir un peu de courage pour s'éloigner du centre touristique de Rome. On va à l'ouest de la ville, aux confins du quartier du Trastevere, mais vous allez être récompensé de vos efforts dans une très belle auberge familiale et populaire.
Je m'appelle Leonardo Vignoli. On est à Rome, on est chez Cesare al Casaletto.
Elle existe depuis combien de temps, cette osteria?
Nous, on l'a reprise en 2009, donc ça fait 13 ans. Mais c'est une osteria qui a ouvert en 1961.
Beaucoup de monde?
Oui, il y a surtout des habitués. Il y a des familles italiennes, il y a des mémés qui viennent fêter 90 ans, et il y a leur neveu qui vient fêter 18 ans. On est un endroit pour tous. Un endroit où j'essaye à tout prix de conserver les saveurs, le goût et... la cuisine qu'on trouvait quand on rentrait à la maison et qu'on avait les mères, les grand-mères qui cuisinaient.
La cucina romana est évidemment très importante sur le menu.
On fait que ça, oui. On a pasta romana, on fait aussi des pâtes fraîches que Dans le temps, on le faisait que le dimanche. Donc là, on les fait tous les jours. On fait 5 sortes de pâtes fraîches. On fait des pâtes traditionnelles comme la carbonara, la matriciana avec des pâtes sèches. On fait tout ce qui est tripe, queue de bœuf, la coratella, c'est les intérieurs d'agneau. Et on fait les côtelettes d'agneau panées. On fait que des spécialités romaines.
Et en ce moment, c'est la saison de la vignarola.
Donc vignarola, il vignarolo est le vigneron. Et donc c'est tous les légumes qui ramenaient à la maison le vigneron le soir. Et le vigneron qui avait quelques animaux, celui qui avait le cochon, il mettait la joue de porc aussi.
Le guanciale.
Le guanciale, oui.
C'est un ragoût de légumes verts de printemps.
Oui. Dans mon cas, moi je cuis tout séparément. Je cuis les petits pois avec les oignons, les fèves avec l'ail et de l'huile d'olive. Les asperges, je les fais juste blanchir. Les artichauts, je les saute à la poêle avec du poivre, de l'ail et de l'huile d'olive. Et je mets tout ensemble à froid. Et j'ai fait les lardons à côté. Et ensuite, j'ai fait mon plat comme ça et je saute les pâtes dedans.
Leonardo Vignoli, le César, le Cesare de la cuisine romaine, qui parle français, vous l'avez entendu, comme vous et moi. Et vous savez pourquoi ? Il a été chef de salle au Petit Nice, le restaurant étoilé de Gérald Paceda à Marseille. Il a été également à Léon de Lyon, un restaurant étoilé à Lyon. Et dans sa trattoria, on peut donc déguster en ce moment la vignarola. Vous connaissiez cette spécialité printanière ? Petits légumes de printemps, un peu de guanciale, la joue de cochon salaisonnée. Voilà, la vignarola, c'est vraiment une spécialité romaine.
Absolument pas, mais pas c'est goûté. Très tentant.
Ça fait envie quand même. Et puis vous pouvez aussi goûter ces superbes pâtes de tradition romaine. Carbonara, cacio e pepe, amatriciana. Également une excellente pizza fine et croustille-moelleuse. Et tout cela à des prix franchement populaires. Un plat de pâtes, c'est entre 11 et 13 euros et c'est assez généreux. La pizza, elle est entre 6 et 8 euros. Bref, des prix italiens, hein, j'ai envie de dire. Si vous avez prévu de visiter la ville éternelle bientôt, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Filez à la Trattoria da Cesare de Leonardo Vignoli. Et comme il adore la France, sa langue, mais aussi sa cuisine, et bien vous lui faites un buongiorno de la part dont on va déguster. Toutes les infos sur notre site internet. À la manœuvre pour cuisiner et épicer cette émission, Laurent Thomas, Alix Barouin, Nadia Chougui. Est-ce que vous l'aimez fraîche ou en graine, cette fameuse coriandre? On vous dit tout sur ce condiment dément juste après Bernard Lavillier sous influence brésilienne. Toi et moi, choisi par Djoubaka.
On se caresse, on se dévore, on s'aimait trop, on s'aime encore. Un mot de plus, un mot de trop, et deux amants sur le carreau. Une année impossible que cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. Il y a ceux qui rêvaient de dictature militaire, ces connards amnésiques ont foutu en colère. Juste toi et moi. Toi et moi. On se caresse, on se dévore, on s'aimait trop, on s'aime encore. Plus de 20 ans et des alarmes, t'as toujours pas baissé les armes. Un vent solaire qui déchire le ciel noir, dans la foule anonyme arrive en flux tendu. Les gueules de prophètes, jusqu'alors inconnues, brille ton cerveau, sont tes pires cauchemars. Juste toi et moi. Toi et moi. C'est pas toujours facile, toi toi et moi, toujours indivisible, toi et moi. Si le sensible vit encore, on se caresse, on se dévore. Une année impossible, cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. On se caresse, on se dévore, on s'aime trop, on s'aime encore.
Coriandrum sativum. On appelle souvent cet ombellifère persil arabe ou persil chinois, tellement on a oublié qu'elle fut d'abord une des herbes aimées des peuples anciens, hébreux, grecs et romains. Fraîches, ses feuilles s'emploient comme celles du persil ou du cerfeuil dans la cuisine orientale, chinoise ou néerlandaise. Les grains sont l'ingrédient de beaucoup de marinades scandinaves ou grecques. Les feuilles servent aux liquoristes et les anciens trouvaient qu'elles rendaient les vins encore plus capiteux et euphorisants. Les vertus médicinales de la coriandre sont évidentes, digestives, carminatives, bactéricides et très stimulantes. C'était un extrait d'un livre référence que j'aime beaucoup, je suis sûr que notre amie Déborah va être d'accord avec moi. Histoire naturelle et morale de la nourriture de Maglone Toussaint-Sama.
Mais on adore tous les livres de Maglone Toussaint-Sama, de toute manière c'est d'une érudition folle, ça se lit très bien parce que c'est accessible pour tout le monde et je ne saurais que trop les conseiller.
Pour se faire une culture panoramique de l'alimentation et de la gastronomie, franchement, Histoire naturelle et morale de la nourriture, c'est un des premiers livres que j'ai lus. On va se stimuler aujourd'hui avec la coriandre, qui est donc, Samir, une plante et une épice universelle, vous confirmez ?
Je confirme effectivement, je confirme que c'est une plante, tout à fait.
Et... Merci.
Bien vu, François-Régis. C'est une apiacée, du coup, c'est une plante enfin, qui fait partie de la famille des carottes, du cumin, ce genre de plante.
Apiacée, c'est le nouveau mot pour ombellifère.
Ombellifère,
hein. On n'a plus le droit dans les règnes botaniques de dire ombellifère.
Et vous avez tout à fait raison aussi quand vous dites qu'elle est universelle, parce qu'on la retrouve en Asie, on la retrouve dans le pourtour méditerranéen, surtout au Maghreb et au Proche-Orient, en Amérique latine, un petit peu en Europe aussi, un petit peu moins, mais on va voir peut-être pourquoi après. Donc voilà, elle a fait son petit bonhomme de chemin, tranquillement, discrètement.
Et pourtant, ce qu'il y a de curieux, c'est que ses origines sont relativement inconnues.
Incertaines, effectivement. Mais en fait, ce qui est marrant avec la coriandre, ben on a l'impression que, par rapport à d'autres plantes où on sait exactement d'où elles viennent, la coriandre, mais comme il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas la paternité de la coriandre. C'est ce que je me dis. Donc voilà, parfois on voit que c'est du Proche-Orient, parfois on voit que c'est le bassin méditerranéen plus le sud, parfois on voit également l'Asie.
Difficile de déceler, évidemment, de démêler ses origines géographiques. C'est assez compliqué, mais on est entre le Proche-Orient et le sud de l'Europe, peut-on dire raisonnablement.
Oui. Et le nord de l'Afrique également. Donc vraiment, enfin, le bassin méditerranéen de manière très très large.
La coriandre a donc une double identité, ce peut être une herbe aromatique quand elle est à l'état frais, à l'état de plante avec ses feuilles fraîches, mais ce peut être aussi une épice quand on cuisine ou qu'on cultive ses graines. Comment on passe de la plante fraîche à l'épice graine ?
C'est un peu l'œuf et la poule, finalement, parce que effectivement l'herbe va pousser en graines, mais d'abord avant ça il y a les fleurs vont se transformer en graines. Ces graines, on va les sécher et effectivement vont donner l'épice. Et si on veut garder les feuilles, on peut tout à fait garder les feuilles pour les utiliser comme herbe fraîche.
Mais c'est donc en fait, à la base évidemment, la même plante, c'est-à-dire que l'épice et l'herbe fraîche répondent au même nom latin de coriandrum sativum. Mais il y a quand même une petite nuance hein, dans la culture, Déborah.
Oui, ce que j'ai lu en fait dans un livre de la collection Chronique du potager chez Actes Sud.
Ah, excellente collection.
Oui, et en fait il y a un tome qui est dédié aux persil, coriandre et cerfeuil.
D'ailleurs ce sont trois cousines. Hein.
Trois cousines exactement, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés, les mêmes goûts. J'ai lu effectivement dans cet ouvrage que si on souhaitait plutôt faire de la coriandre graine, c'était mieux de le semer au printemps parce qu'en fait avec la chaleur, avec le stress hydrique, ça va monter plus facilement en graine. Et au contraire, si on veut de la feuille, on a intérêt à attendre la fin de l'été, le début du printemps, une fois que les grosses chaleurs estivales sont passées. Mais en tout cas, oui, c'est bien la même plante.
Voilà, donc on peut avoir cette coriandre au potager dans le carré des herbes aromatiques ou en graines dans le placard à épices. Je vous propose de commencer par l'épice. On en viendra dans un second temps à l'herbe fraîche, à la feuille fraîche. On va commencer par cette épice. Comment vous pourriez nous la décrire, Samir ? D'abord, visuellement.
Visuellement, des petits grains couleur beige, entre beige et marron. relativement claires. Des petits grains qui ressemblent à des grains de poivre, un peu moins ratatinés, beaucoup plus ronds, striés. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est une des seules épices, quand on va la sentir comme ça, n'a pas d'odeur. Il faut l'écraser, soit dans la main, soit sous la dent, pour que justement le parfum se libère.
On peut faire un petit test ?
Allons-y, ouais,
allez,
bien
on
sûr.
Fait passer une boîte qui ressemble à une boîte de caviar, sauf que c'est un caviar autrement plus précieux là qu'il y a dans cette boîte. C'est tout simplement la coriandre que vous commercialisez, mon cher Samir.
Tout à allez, fait. Qui vient d'Auvergne.
Eh ben, il y a un petit cobaye qui s'appelle tout simplement Dominique Hutin. C'est parti.
Très bien.
Allez, on gobe, on croque.
Bon, effectivement, c'est sec. Ça résiste pas beaucoup sous la dent. Ça se laisse facilement faire. Il y a un caractère un peu frais, qui est assez.
Fraîcheur.
J'ose pas dire mentholé, mais en tout cas, il y a ce vent de fraîcheur qui vient un peu raviver la bouche. On a parlé tout à l'heure des 3 C, là, avec la carotte, coriandre et cumin. Je pense que c'est un assemblage assez sympa à vivre. Je vote pour.
Bah, très bien dit. Qu'est-ce qu'il en pense, notre chef, qui a, paraît-il, le palais absolu, ou presque, Nathan Hello. Qu'est-ce que vous décelez comme ça, comme parfum?
Ouais, moi, je trouve qu'on a vraiment un sentiment de fraîcheur qui, du coup, va nous rappeler un peu la feuille, en fait. Donc, on sent vraiment qu'il y a une continuité là-dedans. Puis oui, on a ce sentiment de fraîcheur qui nous amène tout de suite du beau temps dans la tronche, en fait. Et ça fait vraiment plaisir, surtout sur les jours qui arrivent. On arrive à déceler aussi un petit peu des notes un peu d'agrumes, ce genre de choses-là, qui toujours confirme quand même que je pense que, même si on ne sait pas d'où ça vient du bassin méditerranéen. Quoi.
On parle souvent d'agrumes comme une espèce de très gustative de la coriandre graine, Samir Ouriagli.
Agrumes et voire citronné, légèrement citronné, mais un petit côté en même temps boisé. Et du coup, on peut l'associer avec des poivres, finalement. Et d'ailleurs, les industriels n'y manquent pas. Enfin, voilà, vont le faire. Ils font le mélange 5B où il y a différents poivres qui sont assemblés et également des graines de coriandre. Et juste une petite précision, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fraîcheur, comme Nathan l'a dit. Mais c'est une fraîcheur qui n'a rien à voir avec la fraîcheur de l'herbe. Tous ceux qui n'aiment pas l'herbe, ils pourraient aimer la graine. Et ça, c'est important de le dire. Faut pas rester bloqué sur le mot coriandre quand on voit la graine. Il faut aller au-delà.
La coriandre graine, pour le coup, elle est vraiment utilisée dans toutes les civilisations culinaires. C'est une épice qui parfume les currys indiens. En Algérie, il paraît que les graines de coriandre sont moulues et mélangées à de l'ail, ce qui donne une poudre très intense, utilisée dans la préparation de nombreux plats comme le couscous. En Tunisie, il y a le tabil, qui est vraiment un mélange d'épices. Et la coriandre, la graine, y est mélangée avec le carvi, l'ail et le piment. On va se tourner du côté du Maroc, qui est l'un de vos pays d'origine. Samir Ouriagli, vous nous confirmez aussi que la graine, elle a fait une belle carrière au Maroc.
Elle a toute sa place, effectivement, au Maroc, surtout dans ce qu'on appelle le mélange d'épices. Enfin, c'est un peu un curry à la marocaine, finalement. C'est ce qu'on appelle le ras el hanout, donc le ras el hanout. Et c'est vraiment un mélange d'une quinzaine, une vingtaine d'épices. Ça dépend vraiment d'un épicier à l'autre. Et on retrouve également des graines de coriandre dedans, qui sont extrêmement importantes. Et juste pour revenir un petit peu sur la Tunisie, dans la harissa également, la harissa contient des graines de coriandre et du carvi, comme le tabil, comme vous l'avez dit.
En Grèce, elle parfume la marinade des olives de table, avec le citron. Enfin bref, on la trouve absolument partout. Et on va la trouver dans une recette emblématique que vous nous avez préparée, cher Samir. Mais juste avant, puisqu'on est dans une recette qui va être plutôt de tradition française... Justement, vous utilisez votre propre coriandre et on précise qu'elle est cultivée en France. Racontez-nous.
C'est une épice. Quand on pense à épices, on pense généralement à lointain. En revanche, il y a des épices finalement qu'on a toujours eu en France depuis les Romains, quasiment, même avant. Et typiquement, la coriandre, Charlemagne en était un grand fan et il avait vraiment incité tous ses domaines royaux à en planter partout.
Et notamment pour ses, justement, ses vertus stimulantes, je crois.
Ses vertus stimulantes et pour ses bienfaits, effectivement, tous ses bienfaits. Pour la graine, pas pour la feuille.
Absolument.
Je tiens à le dire, c'était pour la graine à l'époque. Donc voilà, et aujourd'hui en France, il y a encore des régions qui produisent, on peut en avoir un peu partout finalement en France, je sais qu'il y en a en Alsace, il y en a dans le centre de la France, dans le sud, la mienne elle vient d'Auvergne. Donc voilà, et c'est vrai comme vous avez dit, je suis venu avec une recette traditionnelle.
Où la coriandre est indispensable.
Elle est. Alors pour le coup, c'est une des seules recettes classiques françaises où on retrouve la coriandre. C'est les champignons à la grecque.
Et ouais, alors champignons à la grecque, comme ça fait un peu influence méditerranéenne, mais il est vrai que c'est vraiment un classique, notamment de nos vitrines de traiteurs. Hein. Champignons à la grecque, ça rappelle des souvenirs à certains ou pas?
Bah oui, on pratique quand même. Alors peut-être des...
Avec le côté un peu aigre-doux.
Oui, et puis des versions adaptées certainement, qui sont un petit peu plus urbaines, un petit peu déliées, diluées même. Je pense qu'on est un petit peu loin de l'origine.
En tout cas, c'est un plat qui est vachement bien pour l'été. C'est super sympa parce qu'il y a ce côté, comme l'a dit Dominique, ce côté aigre-doux, très frais, très sain, simple également. Et on peut le faire, ce qui est marrant, c'est qu'on parle souvent de champignons à la grecque. En fait, on peut faire plein de légumes à la grecque.
Ouais.
On peut faire des artichauts, on peut faire des courgettes.
Ouais.
Mais c'est vrai que généralement, chez les traiteurs, il y a toujours ce ce bac qui est pas forcément toujours appétissant, malheureusement.
Non, ça baigne. Là, c'est le contraire avec cette recette.
Un peu marronasse.
On a des choses qui sont totalement immergées, c'est mou. Là, il y a de la consistance, il y a un peu de croquant, même avec le champignon. C'est un tour de force. Et surtout, on fait l'économie de cette espèce de sauce un peu cache-misère, là, une espèce de truc, ça baigne. C'est vraiment, on mange avec les yeux, c'est pas très appétissant d'ordinaire. Là, la promesse est tenue, plutôt.
Déborah a assuré le service, mais c'est magnifique.
C'est surtout qu'on retrouve en fait le vrai goût de ce que doit être une grecque. Et je pense qu'on en a tous mangé des mauvaises et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas forcément cette image très ragoûtante. Donc là, j'incite à,
c'est incroyable. Mais
à
alors,
faire cette recette.
Pour nos rares auditeurs qui habitent Mars, est-ce que vous pourriez rappeler ce que sont les champignons à la grecque?
Ah, certainement. Champignons à la grecque, en fait, ça va être des champignons qui vont finalement cuire dans un mélange de vin blanc, de jus de citron, de graines de coriandre que j'ai torréfiées et moulues, du sel et un rien de sauce tomate, juste pour la couleur surtout, et voilà, pour apporter un petit peu...
Il y a un petit côté ketchup quand même.
Oui, parce qu'il y a le côté gros doux finalement qu'on retrouve dans le ketchup également.
Oui, mais vous avez trois ingrédients qui amènent de l'acidité, qui vont un peu équilibrer le côté rond, sucré, peut-être un peu envahissant du ketchup parfois.
Oui, tout à fait, exactement.
Et vous n'avez pas lésiné sur la corne, mais c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il en pense, notre chef Nathan Hello?
Moi j'adore ça, et puis on découvre un grand cuisinier du coup chez Samir.
Ah, vous n'avez aucune critique à faire?
Aucune, absolument aucune. Moi c'est des plats, normalement on a un peu tous mangé quand on était enfant. Tout à l'heure on disait qu'on retrouvait de la gourmandise, je pense, en voyant ça, parce qu'on a tous ce souvenir de plats de cantine en fait où on n'aimait pas ça, parce que ça arrivait, on nous mettait une grosse louche dans l'assiette et puis personne ne voulait en manger. Donc en fait on reste là-dessus, et là on s'aperçoit qu'en fait c'est quelque chose de très bon, de très frais, et qui s'accommoderait tout à fait avec un beau poisson grillé. Quoi.
Plein d'auditeurs nous rappellent à l'ordre pour nous dire que la graine de coriandre, évidemment, elle est présente dans le pot de nos fameux cornichons.
Tout à fait.
Avec la feuille d'estragon, il y a toujours de la coriandre dans la conservation de cornichons, on est d'accord?
Oui.
Et ce, depuis la nuit des temps.
Oui. Encore une fois, il y a ce côté discret, la graine de coriandre. La graine de coriandre, on va la retrouver dans des saumures, dans des conserves.
Dans des marinades de gibier.
Dans des marinades également. Elle n'est pas exubérante. Elle est là, tranquille, discrètement. Elle a son petit rôle. On la reconnaît pas toujours. On l'oublie parfois.
Mais ça, on y viendra après, contrairement à sa feuille, qui pour le coup est très très expressive. C'est vrai que la coriandre, l'épice, a une certaine discrétion et une certaine délicatesse qu'apprécie d'ailleurs notre chef, Nathan Hello. Vous, alors on parle de la graine. À l'épi du pain, ça se passe comment avec cette épice?
Alors nous, on aime la faire torréfier. Parce que justement, je trouve que quand on la torréfie, pas trop longtemps, mais on a vraiment une palette d'arômes qui s'exprime. Et donc on retrouve, nous en l'occurrence, ce qu'on cherche quand on va la travailler avec quelque chose de très iodé. On va chercher à aller trouver vraiment ces écorces d'agrumes en fait. Pamplemousse, orange, citron. Et puis on aime aussi un peu la laisser sécher pour la mettre dans des moulins à poivre et venir justement au dernier moment en mettre un petit peu sur les plats qu'on envoie.
Donc mélanger coriandre et poivre noir, Piper, Nigroom, et la coriandre, les deux épices, ça se passe bien dans le moulin, quoi.
Oui, ça se passe bien dans le moulin. Après, encore une fois, il faut toujours choisir le poivre qu'on va mettre avec. Si on a quelque chose qui prend le dessus, c'est pas intéressant, puisque, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment une épice qui est discrète. Elle est peu souvent mise en avant toute seule, en fait.
Et la coriandre, l'idée de la faire torréfier, c'est de renforcer, évidemment, son intensité aromatique?
Exactement. Exactement. On lui donne encore plus de caractère quand on va la torréfier.
Allez, une stratégie dans l'assiette de Nathan Hello, un chef qui a beaucoup de talent. Ça fait combien d'années que vous êtes à l'épi du pain?
Depuis 3 ans.
On connaissait ce bistrot à l'époque de François Pastaud, hein, qui a été vraiment un chef très important, porte-étendard d'ailleurs de la gastronomie durable. Et depuis 3 ans, bah, c'est vous qui lui faites suite.
Exactement.
Dans cette rue parisienne de la rive gauche, avec beaucoup de succès. Et là, ben, quand on voit à peu près l'esthétique, le visuel de votre assiette creuse, on se dit qu'il y a du très très haut niveau. Qu'est-ce que vous nous avez préparé?
Toujours pour mettre la coriandre à l'honneur, on est venu servir ça avec une langoustine qu'on dit mi-crue, mi-cuite. En fait, on va la réchauffer avec un bouillon.
Ouais.
Ce bouillon est fait avec les têtes de langoustine. Et juste avant de torréfier les têtes de langoustine, on vient torréfier ces fameuses graines de coriandre pour justement développer les arômes et puis marier à la fois l'iode de la langoustine et vraiment toute l'expression d'agrumes que peut avoir la coriandre.
On pourrait décrire une espèce de rosace.
Exactement.
À base de langoustine crue, surmontée d'un petit jardin végétal. Où il y a quels légumes?
Alors on est sur de la courgette verte et jaune, puisqu'on arrive bientôt sur l'été, sur le soleil, donc on va chercher tous ces légumes-là.
Et il y a de la cerise?
Et aussi.
Et la cerise, alors c'est pour après, il y a un petit condiment à la cerise, mais là on utilise plutôt la feuille fraîche, c'est ça?
Exactement.
On va en parler tout à l'heure. Mais là alors, vous allez verser donc, il est où ce bouillon?
Le bouillon est juste là.
Ah,
donc un
bouillon.
Ah
oui, carrément, dans une petite théière en fonte chinoise. Montrez-nous comment vous faites. On est dans un bouillon très chaud, qui va cuire comme ça, saisir de façon instantanée la langoustine.
Exactement, le but du jeu en fait c'est de saisir pratiquement juste le tour des morceaux de langoustine. On est sur un jeu de texture entre le tour de la langoustine qui va être cuite et l'intérieur de la langoustine qui sera encore pratiquement cru. Donc ce qui va en plus normalement renforcer ce côté un peu iodé de la langoustine.
Oh là là, splendide. Mais alors il y a vraiment un côté un peu agrumé, il y a aussi un peu d'agrumes quand même dans ce bouillon?
Absolument pas.
Donc c'est le rôle de la coriandre?
On joue simplement avec la coriandre là-dessus.
C'est extrêmement sapide. Il y a tout l'umami qu'on peut retrouver dans ces fameuses têtes de langoustine ou ces têtes de crevettes.
Voilà.
Et tout ça épicé, ponctué de coriandre graines, bien intense quand même.
Exactement. Vraiment, là, pour le coup, le plat n'est absolument pas assaisonné. Et l'assaisonnement va venir par la coriandre et l'iode de la langoustine.
Quelle réussite. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de Déborah, Samir, Dominique?
Moi, j'ai les scrupules à abîmer cet assemblage.
C'est très
joli. Visuel.
Ah ouais, ça, on sent qu'il y a du doigté.
Samir? Même chose que Dominique, moi, je suis bluffé de voir une assiette aussi bien dressée en studio. On n'est pas en cuisine,
et
on
n'est
pas au restaurant.
C'est sûr que c'est plus joli que vos champignons à la grecque. Mais vous vous êtes rattrapé, Samir, avec l'équilibre parfait, franchement.
Je ferai mieux la prochaine fois, promis.
C'est vrai que c'est ce qu'on se disait avec Samir. Nous, on est avec nos boîtes en plastique et des choses écrasées. Et là, on a une assiette de restaurant. C'est très étonnant. Et c'est vrai que la fraîcheur, la feuille en fait en fin de dégustation apporte vraiment le côté très coriandre. Mais sinon, sur les graines, c'est d'une subtilité folle.
C'est une vraie belle prouesse. Hein.
Bah, c'est gentil.
Il y a aussi un travail sur la température.
Oui,
le jus tiède permet de ce ciment un peu sans fracture, sans violence, sans crête abrasive. Ben,
on a l'utilité d'un bouillon très chaud forcément pour la cuisson, mais ce qui est bien, c'est qu'on joue avec ce chaud froid et du coup, on arrive à une température sur le bouillon qui ne va pas agresser le palais. Et donc du coup, on a vraiment une palette olfactive qui se développe quand on le goûte. Et normalement, on doit retrouver les graines de coriandre.
On sait que les langoustines coûtent un certain prix. Si on voulait faire justement un petit jus coriandé, si j'ose dire, avec un autre crustacé, ce pourrait être des crevettes.
De la gambasse, de la crevette, ça marche très très bien.
Et on reprend le principe d'utiliser ce qu'on appelle les têtes. Hein.
Exactement.
C'est cette matière un peu marronasse.
Oui, alors en fait, on va utiliser toute la tête. À l'intérieur, on peut utiliser ce qu'on appelle le crémeux de langoustine, qui est cette chose un peu marronasse. Et nous, sur ce plat-là, on en fait une émulsion qu'on va amener sur la noisette, justement pour répondre à la torréfaction des graines de coriandre. Et après, on va écraser les têtes et qu'on va venir les torréfier pour vraiment laisser s'exprimer tout le côté iodé de la langoustine et avoir un bouillon comme on le souhaite.
La recette du talentueux Nathan Hello sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Combien d'années au compteur
En cuisine?
Ouais.
De petites dizaines d'années.
Petites dizaines d'années. Et l'âge général?
33 ans, depuis deux jours surtout.
Et oui, vous avez commencé un peu tard.
J'ai commencé sur le tard, exactement. J'étais plutôt dans le commerce avant et je me suis aperçu que la cuisine me plaisait énormément.
Vous êtes bien rattrapé. On laisse la parole à Dominique Hutin pour une chronique en forme d'hommage à un pays qui souffre et dont la culture gastronomique a accueilli depuis très longtemps la coriandre.
On va déguster sur France Inter.
Eh oui, l'Ukraine. Je vais vous parler aujourd'hui de vin ukrainien. Alors d'abord, pour éclairer ce pays sous d'autres feux que ceux de l'actualité, bien sûr, mais surtout parce que l'Ukraine, c'est d'abord un vignoble historique qui trouve des racines avant le Moyen-Âge, même si on le connaît au final assez mal en France. Puis ensuite, parce que l'Ukraine, c'est un des fournisseurs de la coriandre en France, ça on le sait assez peu, à hauteur de 80 tonnes. Alors, rendu au poids d'une graine, c'est pas tout à fait anodin, quand même. 80 tonnes par an, et surtout parce que... Alors attention, parce que là c'est un peu scientifique, si vous mélangez le jaune et le bleu du drapeau ukrainien, vous obtenez le vert de la feuille de coriandre, bien sûr.
Dont on va parler dans un instant. Ah oui, là, non, il réfléchit beaucoup la nuit pour ses chroniques.
Ça vous va en termes de justification, c'est voilà. En parlant de vert justement, j'ai rempli les vôtres, ça tombe bien, avec des vins ukrainiens. Alors le vigneron d'aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, les plus sportifs en tout cas, parce que c'est l'ex-tennisman professionnel Sergi Stakhovski.
Ah bah oui.
Voilà. Il a mis un terme à sa carrière ces dernières années. Du coup, il est passé directement là, en quelques mois, du short au treillis militaire, le pauvre. Mais sa carrière de vigneron, heureusement, il l'a initiée dès 2015. Et ben, justement, lors d'un tournoi de tennis à Bordeaux. Voilà. C'est pas tout à fait le hasard. Alors, le premier vin, à disposition, c'est un Merlot, qui est un cépage de Bordeaux.
C'est celui que vous nous avez servi?
Ça n'est pas celui-ci, justement.
D'accord.
Le Merlot, vous le connaissez, c'est un standard interplanétaire, etc. Non, j'en ai trouvé un autre. Au contraire, ça s'appelle le Saperavi, et c'est celui qui est dans votre verre, François Régis. C'est un vieux cépage historique qu'on trouve dans tout ce quartier, et c'est un peu aussi le symbole d'une forme de résistance, là pour le coup, à la mondialisation du vin. Alors vous pouvez vous en douter, en ce moment le tourisme viticole est un tout petit peu contrarié en ces contrées. Je vais vous proposer une petite téléportation depuis le studio 621 par exemple. Avec la vigne ukrainienne, on a des disparités. Vous allez la trouver autour d'Odessa, plutôt au sud. Vous allez la trouver en Crimée. Là, c'est une situation qui est plutôt montagneuse. Ou même dans le Caucase. Là, on est en vallée. C'est encore différent. Mais vous allez aussi la trouver dans la vallée du Dniepr, qui mène directement à Kiev. Alors Kiev, qu'on va dire Kiev, puisque c'est la prononciation ukrainienne. Et puis, complètement à l'ouest, vraiment complètement à l'ouest, vous allez trouver la Transcarpie, qui est une frontière partagée avec la Hongrie. Donc on a un vignoble qui, bien sûr, qui est extrêmement enraciné, mais ça ne l'empêche pas d'être soumis à des évolutions. Par exemple, le fait de se tourner vers des vins blancs secs, quand même une inspiration européenne, là où une grande partie de la production aujourd'hui est quand même appuyée sur des vins rouges sucrés, qui n'est pas tout à fait calibré pour nos palais, nos gosiers, cocorico. Une autre tendance aussi, c'est vouloir monter en qualité puis s'affranchir un peu de certaines logiques productivistes qui ont été un petit peu héritées de l'ère soviétique. Voilà. Tout ça s'est poussé en fait par une jeune garde de consommateurs de 25-35 ans qui s'éloigne un petit peu de la bière et des alcools forts, qui sont quand même les boissons traditionnelles, pour se pencher vers des vins de qualité. Alors en matière de table, là on navigue un petit peu au large du traditionnel entrée plat dessert qui font nos tables en règle générale, parce que là-bas les tables sont richement garnies avec tous les mets qui sont présentés d'un seul coup, une espèce de richesse. Donc tout arrive en même temps. On a parlé tout à l'heure de cornichons au saumur, ben voilà une place pour la graine de coriandre par exemple, c'est typiquement ukrainien. On peut le goûter peut-être? Ça vous évitera de ne boire que mes paroles, hein? Il faut se réhydrater de temps en temps.
Alors il y a de la matière.
Il y a de la matière.
Il y a un toucher de bouche très agréable. C'est rond, c'est ample, et puis c'est soyeux.
J'en profite pour le redonner le nom du cépage, qui nous est quand même largement inconnu. Saperavi, donc c'est un rouge, je ne l'ai pas précisé, c'est un 2018. C'est un vin qu'on peut effectivement porter sur pas mal de sauces. Peut-être moins sur les cuisines traditionnellement ukrainiennes, qui va très bien s'adapter à nos cuisines françaises. Ça, c'est assez possible. Alors, si je vous parle de tout ça, ça relève d'abord d'une vraie réalité agricole avec ce vignoble, mais je ne vous cacherai pas que ça relève aussi d'un petit tour de force, puisque ces vins sont essentiellement consommés sur place à hauteur de 80%. Le reste part à hauteur de 10% en Moldavie, qui est le voisin. Et puis la diaspora, peut-être que si vous connaissez New York, vous connaissez la Little Odessa.
Et bien sûr.
Et ben voilà, ces gens-là absorbent beaucoup des vins ukrainiens, donc peut-être ils entretiennent une forme de nostalgie accessoirement. Et je dois dire, pour finir, qu'on doit la présence de ces bouteilles, une espèce de petits miracles, puisque les vins ne sortent pas foncièrement du pays. Et comme par hasard, on doit ce miracle à un vigneron bordelais, à qui je dois tout cet éclairage ukrainien. Il s'appelle Laurent Fortin. Il dirige le château d'Ozac, qui est un cru classé de Margaux. Donc vous voyez, on prête souvent des propos au vin de Bordeaux. Ils peuvent voir un petit peu plus loin que la Gironde, la Garonne, etc. Et donc il a cette double casquette, puisqu'il est aussi consul. Vous l'avez noté, j'ai une voix un peu particulière aujourd'hui. J'avais un physique de radio avant, maintenant j'ai pas de voix de radio, mais je suis à mon maximum. Donc Laurent Fortin du château d'Ozac, il est consul d'Ukraine, en plus d'être vigneron au château d'Ozac. Il est très engagé dans l'accueil des déplacés, notamment, ça le porte énormément. Et puis il est aussi à l'origine d'élans de solidarité. On peut penser notamment à une vente aux enchères assez formidable qui a mobilisé tous les grands noms du vin, dont une grande partie a choisi de rester très discret quant à leur engagement. Vous pourrez en parler avec lui parce que le château d'Ozac est ouvert tout l'été, comme toute l'année d'ailleurs. Vous avez une petite ambassade d'Ukraine, finalement, en bordelais. Voilà, vous pourrez. Et puis, juste pour finir, je ne peux pas clore cet éclairage sans saluer notre ami Vitaly, qui produit du cidre au sud-est de Kiev et qui s'appelle Berryland. Donc voilà, la bouteille, je la garde. Elle est un peu précieuse parce que sa ferme a été détruite. Donc voilà, tout lui va bien.
Ferme cidricole située en Ukraine, hein, on
voilà,
est d'accord.
Au sud-ouest de
Kiev.
Parce
qu'on n'a pas la géographie forcément.
Et donc son activité a cessé. Vitaly, évidemment, on pense beaucoup à toi.
Merci Dominique, et évidemment, hein, malgré le côté léger de votre chronique épicurienne, on pense à ceux qui survivent en ce moment en Ukraine. Un grand merci. Dans un instant, ça y est, on y vient, la coriandre fraîche avec ses usages, mais aussi ses violents détracteurs. Pourquoi cette plante aime se faire détester? Ben, on va répondre à cette question avec nos invités. One and Only de Gabriels, un groupe soul et gospel made in Los Angeles. La coriandre, c'est notre menu du jour.
On va déguster. Sur France Inter.
La coriandre fraîche évidemment, mais pendant la pause musicale, Samir, vous nous avez fait goûter un truc incroyable avec de la coriandre graine. C'était
une poutargue ou une boutargue affinée à la coriandre.
Rappel de ce qu'est la boutargue.
La boutargue, ce sont des œufs de mulet qu'on va sécher. Et en fait, c'est une sorte de charcuterie de la mer, finalement. C'est ça qui est génial, qu'on va couper ensuite en tranches, qu'on pourrait râper sur des pâtes. Et là, c'est une productrice qui a énormément de talent, qui s'appelle Elodie.
On la boutargue. Connaît.
Je crois que vous la connaissez.
Elle a du talent, je confirme.
Et qui fait des poutargues affinées aux épices. Et donc, on s'est mis, on travaille ensemble sur certaines poutargues affinées aux épices. Et notamment celle-ci, coriandre, que je trouve...
Très bon. Vous en pensez quoi, Nathan?
Je trouve ça délicieux et puis du coup ça nous met un peu la pression parce qu'on en a lancé il y a 2 semaines et du coup on n'a pas pu l'amener aujourd'hui parce qu'elle n'est pas encore affinée, mais on espère qu'elle sera au moins aussi bonne que celle-ci parce qu'elle est très bonne.
Ah, vous en faites vous-même, c'est ça que vous
voulez
dire?
Exactement, oui, on récupère.
Vous êtes du sud, hein, ça ne s'invente pas.
On est du sud et puis surtout on optimise les produits. Alors en l'occurrence, nous ça sera pas de mulet mais ça sera de turbo.
Moi j'ai tendance à en préférer une autre, celle de Dijon, que vous connaissez peut-être. La moutarde de Dijon.
La moutarde.
D'accord.
Ah ouais, d'accord. Merci Dominique. Bon allez, on en vient à la coriandre feuille et là on prend un risque, celui de voir la moitié de nos auditeurs fermer leur poste de radio quand même, hein. C'est quand même ça, puisque j'en ai fait l'expérience, ceux qui invitent aussi, et vous en faites partie autour de ce plateau, vos amis à dîner, ça doit arriver aussi, quand vous servez un plat avec de la coriandre fraîche, il y a toujours un invité qui fait la grimace, parce qu'il ne peut pas accepter l'idée d'avaler cette plante. Pourquoi Samir ?
Je comprends pas.
Et il y a pourtant des raisons.
Oui, il y a des raisons, effectivement. Non, je comprends pas de manière très ironique, parce que, vous l'aurez compris, je suis fan de coriandre.
Et d'ailleurs, autour de ce plateau, on n'a pas fait le casting au hasard, hein. On est tous fans de coriandre.
Oui. Oui, on aurait invité Jérôme Gagnès, ça se serait un petit peu plus mal passé, parce que là, il nous aurait expliqué que c'est un mélange entre le savon et la punaise écrasée. Il déteste cette herbe.
Et vous savez pourquoi ?
Parce que Jérôme a très mauvais goût, comme tout le monde sait.
Non, je veux dire, vous savez pourquoi ? Il y a des gens n'aiment pas la coriandre. Feuille, pourquoi est-ce qu'elle crée autant de tollé ?
On brûle de le savoir.
Pourquoi il y a des controverses finalement autour de la coriandre ? En fait, on n'a pas tous les mêmes gènes. Donc il y a certains qui ont des gènes qui ne leur permettent pas d'apprécier la coriandre et voire la détester. Ce gène, c'est un gène qui s'appelle le OR6A2.
Oula,
c'est un nom assez compliqué, peu style Star Wars. Et ce gène, en fait, va déceler ce qu'on appelle l'aldéhyde dans la feuille de coriandre. Il va l'associer, comme l'a dit Déborah, à du savon. Donc les gens ont l'impression de manger du savon. Bah effectivement, enfin c'est pas agréable de manger du savon. Moi j'ai pas cette impression-là quand je mange la coriandre, Dieu merci. Et moi j'ai découvert ça il y a une quinzaine d'années sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y avait des groupes de gens haineux, mais littéralement, qui étaient remontés contre la coriandre.
Mais vous êtes en train de dire qu'il y a donc une raison plus génétique que culturelle.
Totalement.
C'est-à-dire que si on n'aime pas la coriandre, c'est qu'on a effectivement un gène qui se surexprime et qui nous interdit d'aimer la coriandre en fait parce qu'on l'assimile au savon, ou on dit aussi beaucoup, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux pour ceux qui détestent la coriandre, ils assimilent ça à de la punaise écrasée. Alors moi j'ai rarement eu l'occasion de manger
avoir un peu d'expérience
des punaises, mais vous savez quand on est en forêt, quand on est gamin et qu'on écrasait de temps en temps une punaise, vous l'avez cette odeur.
D'ailleurs, l'étymologie du mot coriandre, il y a coris dans coriandre, coris qui veut dire en grec punaise.
Et ben voilà,
il y a du lien.
Il y a du lien.
Et ce qui est marrant, ce que vous disiez entre culturel et génétique, c'est vrai, et en même temps, il y a plus de personnes qui ont ce gène OR6A2 dans les populations caucasiennes que dans les autres populations qui sont celles du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Amérique latine. C'est-à-dire que chez les caucasiens, il y a plus ou moins 22% de la population qui porte ce gène. Ça fait quand même quasiment une personne sur quatre.
Ouais.
C'est énorme. Alors que justement, dans les autres populations que je viens de vous citer, bah ça descend aux alentours de 4-5%.
En Chine, il y a quelques mois, McDonald's a lancé un nouveau McFlurry. Vous connaissez ce dessert glacé à la coriandre, parsemé, figurez-vous, de coriandre fraîche. Eh bien, je peux vous dire que ça divise évidemment les réseaux sociaux. Certains vont même jusqu'à dénoncer un crime contre l'humanité. Nathan Hello, est-ce que lorsqu'on est à la tête d'un bistrot gastronomique comme les Pieds du Pain, qui a très bonne réputation sur la scène parisienne, est-ce qu'on peut prendre le risque de ciseler de la coriandre fraîche sur les plats que l'on envoie en salle ?
Il faut prendre le risque parce que bah, sinon on laisse de côté des aliments ou des épices ou des herbes qui sont géniales, mais parce que les gens n'ont pas l'habitude ou n'ont pas été éduqués à les déguster.
Oui, mais vous entendez que le frein peut être génétique.
Oui, bien sûr, mais à ce moment-là on ne pourra rien faire.
Mais
si
est-ce que ça vous arrive concrètement qu'on vous renvoie l'assiette en cuisine ?
Non, ça ne nous arrive pas qu'on nous renvoie l'assiette en cuisine, mais c'est annoncé. C'est comme si quelqu'un est allergique à quelque chose.
Vous l'annoncez à la coriandre, vous la parsemez pas comme ça, comme on pourrait parsemer du cerfeuil.
Aujourd'hui, je pense que la plupart des herbes et des épices sont annoncées. Après, très honnêtement, je pense que quelqu'un qui ne mange pas de coriandre feuille, pour moi, à mon sens, va accepter la coriandre graine. Parce qu'elle, déjà, elle est beaucoup moins prononcée, beaucoup moins forte. On a un côté beaucoup plus rond sur la coriandre graine. La coriandre feuille est beaucoup plus directe quelque part. Donc elle est là, on peut pas la louper.
D'ailleurs, elle n'a pas vraiment de statut dans le patrimoine gastronomique français, la coriandre feuille. Autant le cerfeuil, la ciboulette, le persil, on le trouve à toutes les recettes. Vous prenez un bouquin du début du XXe siècle, coriandre fraîche, ça n'existe pas.
Pas du tout. Effectivement, comme vous avez dit, on voit de la ciboulette, on voit du persil, on voit plein d'herbes fraîches. Coriandre, pas du tout. Et juste pour revenir aussi sur un peu l'actualité de cette semaine, il y a le jubilé de la reine d'Angleterre. J'ai envie de faire la comparaison entre Prince William et le Prince Harry pour la coriandre graine et la coriandre feuille.
Ah oui, on a hâte.
Non, mais vraiment, parce qu'en fait, finalement, le Prince Harry, c'est un peu la feuille. Le personnage un peu clivant.
J'espère qu'il écoute, ça lui fera plaisir.
On l'aime pas, il fait des choses un peu scandaleuses, il est un peu audacieux. Donc voilà, alors que la coriandre graine, ce sera le Prince William qui est beaucoup plus rond, beaucoup plus réservé, beaucoup plus discret, pas qui ne va pas faire de tollé. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour cette semaine.
Et je ne savais pas que la coriandre se fumait aussi.
C'est du drame.
Allez, on passe en recette très simple avec de la coriandre fraîche. On commence avec Nathan Hello.
Moi, j'adore la coriandre fraîche en taboulé, déjà.
C'est-à-dire ?
Ben, un bon taboulé libanais, je trouve qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus frais. Vraiment, on sent, c'est une recette où on va sentir qu'il y a de la coriandre. Alors, bah, il faut l'aimer, mais si on l'aime, on est vraiment ravis d'avoir un taboulé libanais.
Seulement coriandre ou vous mélangez avec d'autres herbes fraîches ?
Moi, j'aime venir avec du persil, avec de la menthe, pourquoi pas du basilic pour les plus sudistes. Plus il y a d'herbes, plus il y a de fraîcheur.
Donc une salade d'herbes ?
Exactement.
Des dés de tomates ?
Des dés de tomates.
Un filet d'huile d'olive ?
Et puis un peu d'ail écrasé, pourquoi pas. Mais rien de plus.
Et de la coriandre graine moulue ?
Pourquoi pas.
Très bien. Samir, coriandre fraîche ?
Moi, je vous propose une salade de salicorne, parce que c'est le début de la saison. Les algues, l'iode, se marient très bien avec la coriandre. Donc voilà, vous allez faire comme si c'était en fait des haricots, très simplement. Vous allez les cuire 2-3 minutes dans de l'eau bouillante, sans sel, parce que la salicorne est extrêmement salée déjà. Et ensuite, vous allez faire sauter avec un peu d'ail, vous allez attendre que ça refroidisse. Un petit filet d'huile d'olive, un peu de jus de citron et un peu de coriandre.
C'est délicieux. Alors, coriandre fraîche ?
Les deux.
Les deux.
Oui, j'ai mis les deux sur ce coup.
Mais qu'est-ce que c'est bon, ça ? Il y a encore le croquant de la salicorne, qui est bien salée, en effet. Et elle est parfaitement assaisonnée. Vous en pensez quoi, Déborah ?
J'adore la salicorne, parce qu'en plus, ça a un côté croquant. Donc, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et là, la coriandre passe tout seul. Elle est présente. Hein. Si quelqu'un vraiment n'aime pas ça, ça va être compliqué. Mais pour les personnes qui voudraient tenter, ça peut être une bonne alternative.
Il y a Jean-Charles à Versailles qui nous écrit et qui nous dit « Sur l'étal du maraîcher, je confonds souvent le bouquet de coriandre avec le bouquet de persil. » Et c'est vrai que de loin, on peut faire la confusion entre les deux feuilles. S'il fallait les distinguer en un mot, Samir ?
Alors, vous demandez ça à un Marocain.
Persil et coriandre, d'ailleurs.
Justement, en fait, c'est pour nous, c'est un peu comme tic et tac. On les utilise tout le temps.
Ensemble, ouais.
Non, mais c'est vrai, c'est tout le temps ensemble. Donc, il m'a fallu du temps, moi, pour faire la distinction entre les deux. Maintenant, je l'ai fait. Donc, je peux vous dire. Alors, le persil, généralement, sera un peu plus vert. Les feuilles seront un peu plus longues. La coriandre aura des feuilles beaucoup plus rondes. Et le bouquet de coriandre sera aussi beaucoup plus petit, généralement. Des feuilles beaucoup plus claires. Après, il y a l'odeur qui va pas comprendre. Enfin, l'odeur,
ça,
on comprend pas.
Et puis elle fait aussi que la feuille de coriandre est très très dentée en fait.
Elle est très ciselée, très dentelée effectivement.
Mais dentelée arrondie, alors que la feuille de persil sera plus, si elle est dentelée, elle sera plus pointue aiguë. Quand même.
C'est ça. Et les usages culinaires de la coriandre fraîche, alors là aussi c'est partout. Hein. On la trouve sur les tacos et le fameux guacamole au Mexique évidemment, dans le ceviche au Pérou, hein, pas de ceviche sans coriandre, dans la moqueca au Brésil. Au Proche-Orient, elle est très utilisée, hachée fine, notamment sur le kebenaye. Le kebenaye, c'est cette espèce de, on va dire, de tartare de viande de chèvre ou de mouton, hein, avec pas mal de coriandre. Très présente dans la cuisine portugaise, vous l'avez dit, au Maghreb hein, aussi, voilà, la coriandre, il y en a partout. Sauf curieusement en France, mais on s'est rattrapé avec vos très belles recettes. On va voir qu'elle est aussi présente chez un auteur israélo-britannique qui est une vraie star des fourneaux, la chronique de notre libraire gourmande Déborah Dupont.
France Inter, on va déguster.
Quand je me suis penchée en fait sur la préparation de cette émission et que j'ai commencé à regarder les livres, j'allais dans l'index hein, tout simplement à la fin pour voir. Et effectivement, coriandre, on trouve ça sur le bassin méditerranéen, l'Asie du Sud-Est, on le trouve notamment dans les banh mi, donc les sandwichs vietnamiens. Et je me suis penchée vers quoi ? Vers ottolenghi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un petit ottolenghi.
Et on adore, on aime toujours ottolenghi.
On aime toujours ottolenghi, et pour autant, le livre qu'il a sorti en septembre de l'année dernière, on n'en avait pas encore parlé dans l'émission. Donc là, c'était l'occasion. Donc le ottolenghi Test Kitchen, qui est le premier en fait d'une série de 4 qui va sortir par rapport à ce qu'ils font dans leur cuisine de créativité. Donc là, on est sur une cuisine beaucoup plus diverse avec des influences variées, puisque ce sont tous les cuisiniers qui travaillent dans la brigade d'ottolenghi à la création des recettes qui donnent leurs influences, donc ça explique peut-être que les recettes soient beaucoup plus différentes que sur ces livres précédents. Et là, j'ai choisi en fait un écrasé de carottes, oignons marinés, pesto de coriandre pistache.
Ah, on y vient.
Alors là, il y a tout, hein. Il y a la graine et il y a la feuille.
Les deux à la fois.
Les deux à la fois. Donc en fait, on prend 1,2 kg de carottes qu'on va éplucher et couper en tronçons de 3-4 cm. On va les rouler dans un mélange d'huile d'olive, de curcuma, avec un peu d'eau, un peu de sel, un peu de poivre. On va faire rôtir au four. Au bout d'une vingtaine de minutes, on va rajouter des épices. Donc dans les épices, il y aura du cumin grossièrement pilé, des graines de coriandre, un peu de piment fort. On va à nouveau faire retirer avec de l'ail, qui est quand même très présent. Il y a quand même 6 gousses d'ail pour 1 kilo de carottes.
Mais donc, ça se sent, mais qu'est-ce que c'est bon.
Ça se sent, voilà. Donc on fait recuire une vingtaine de minutes. Et à la fin, on rajoute un peu de sirop d'érable ou un peu de sirop d'agave. On monte un petit peu la puissance du four, puisqu'on va passer au-dessus de 200 degrés, pour faire un petit peu caraméliser, ce qui est aussi la caractéristique de la cuisine d'Ottolenghi, les légumes rôtis au four. Ensuite, ça s'écrase tout simplement à la fourchette. Et on rajoute dessus 3 petits condiments, donc du yaourt à la grecque qui a été aromatisé avec du citron vert,
ouais.
De l'oignon rouge qui a été aromatisé avec du citron vert, ce qui permet de mieux digérer l'oignon cru. En fait, oignon ou échalote, quand vous le ciselez, vous mettez du citron, vous mettez un peu de sel, vous laissez mariner au moins une demi-heure, ça se digère un peu mieux. Et puis le fameux pesto, donc un pesto très simple à faire, 40 grammes de pistaches, 2 oignons verts émincés, donc à la fois le blanc et le vert, 20 grammes de coriandre fraîche, vous mixez le tout, vous obtenez cette texture un peu granuleuse caractéristique du pesto, et vous parsemez vos carottes, voilà.
C'est bon, donc la graine et la feuille réunies dans un plat aux multiples influences.
Et si on n'aime pas effectivement la coriandre feuille, il est tout à fait possible de remplacer par du persil. Dans ce cas-là, le chef conseille de remplacer aussi la pistache par des pignons de pin ou des amandes.
Vous nous rappelez les références du livre d'Ottolenghi ?
Donc Ottolenghi Test Kitchen, paru aux éditions Hachette Cuisine, et il coûte 24,95€.
Ça donne envie de l'acheter, mais je suis sûr que ce pesto à la coriandre fraîche n'est pas aussi efficace qu'un autre condiment que nous a préparé Nathan Hello.
Oui, alors nous, on a préparé, justement, parce qu'on est en plein dans la saison, un condiment autour de la cerise avec de la coriandre fraîche. On va venir le marier sur une entrée, donc une entrée salée, une entrée iodée, puisqu'elle est à base de langoustine. Et donc, on va venir avec des échalotes, on va faire revenir des échalotes. Ensuite, on va dénoyauter donc nos cerises, on va les faire revenir avec les échalotes. Et une fois que ça aura rendu toute son eau de végétation, là, on va venir déglacer avec un tout petit trait de vinaigre de vin vieux. Et ensuite, on va venir mixer le tout avec des feuilles de coriandre fraîches. Et c'est là que ça va nous amener une grosse puissance. La cerise va vraiment arrondir les angles, comme on peut dire. Et en fait, on amène à la fois la fraîcheur et la puissance de la coriandre feuille avec toute la délicatesse que peut nous apporter la cerise et vraiment une douceur en bouche qui va vraiment faire que le tout, normalement, se passe plutôt bien en bouche.
Génial, super. Et Samir Goutsa, il y a peut-être moyen de réconcilier, comme vous l'espériez, nos auditeurs avec la coriandre fraîche, avec un condiment aussi brillant dont on retrouve la recette sur franceinter.fr à la page On va déguster. Vous aimez ou pas, Samir?
Oui, mais
moi. Cerise, coriandre fraîche, ça va?
Totalement. Totalement, et j'aime bien ce mélange. Enfin, on pense pas forcément souvent à mélanger la coriandre fraîche ou graine avec des fruits, et je trouve que c'est une très bonne idée.
Ah ouais.
Et moi, je vous ai apporté également une salade de fraises. Je peux l'appeler la salade Hanouna?
Pourquoi ?
Parce qu'il y a des gens qui vont aimer, d'autres vont détester.
Ah voilà.
Il y a la coriandre fraîche, la coriandre graine, tout simplement.
Coriandre fraîche et coriandre graine avec des fraises.
Tout simplement.
En voilà une super idée, un grand merci. On va déguster ça, mais c'est la fin de l'émission. Épices encore de Samir Ourriagli, où on trouve notamment de la coriandre 100% made in France. Pour ceux de nos auditeurs qui veulent se procurer vos épices.
Oui, c'est sur le site encore à ncashor.fr. Il y a une quinzaine de références. Je travaille surtout avec des chefs, donc j'ai une cinquantaine de références pour les professionnels. Pour le grand public, un peu moins, mais des très très bonnes références.
Il y a de quoi s'éclater. L'épi du pain, le bistrot gastronomique de Nathan Hello dans la rue du même nom à Paris.
Au 11 rue du Pain, très exactement, dans le 6e arrondissement.
Pour les coriandophiles et pour les autres aussi. Hein.
Même pour les autres.
C'est ça. La semaine prochaine, on va déguster Dresse le couvert à la Villette à l'occasion de la 2e édition du festival Mot pour Mot. Ce sera en direct et en public de la nef de la grande halle de la Villette. Au menu, attention, voilà aussi notre cuisine qui fait débat. La cuisine anglaise, God save the English cuisine dans les assiettes, mais également en littérature. Et cette émission sera suivie d'une dédicace autour de nos livres On va déguster, coédité par Marabout et les éditions de Radio France. Merci Déborah, merci Dominique, à très vite.
Merci.
À très bientôt, oui. Ils ont tous les deux la bouche pleine. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.